RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Hirvinière.
Bonsoir.
Ensemble, nous recevons Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Donc, c'est l'actualité en France, la visite du président chinois. Malgré les sourires de façade, peut-on dire de la Chine qu'elle est un rival stratégique? Êtes-vous partisan d'une nouvelle défiance?
En tout cas, il faut avancer avec prudence et vigilance avec un partenaire de cette nature. D'abord, c'est un partenaire puissant, qui sera probablement le premier pays du monde dans quelques dizaines d'années. Et donc, c'est un partenaire aussi qui maintenant dispose de technologies. C'était pas le cas auparavant. C'est d'ailleurs un des cas de friction tout à fait considérable avec les États-Unis, qui au fond, à un moment donné, la maîtrise des technologies et l'Europe est un peu dépassée là-dessus.
Là-dessus, pardonnez-moi de vous, puisque vous en parlez. Donc, vous parlez de Huawei. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, le géant de la téléphonie qui veut installer la 5G en Europe. Certains sont partisans de la boycotter pour des questions de cybersécurité. Est-ce que vous êtes vous aussi partisan de ce boycott? Est-ce qu'il faut boycotter Huawei sur la 5G
technologique et je veux pas dire
non, mais est-ce que c'est un risque
mais je pense qu'il faut en tout cas que ceux qui savent regardent ça de très très près et que aucun gouvernement ou aucune économie et si possible en concertation européenne ne s'engage sans des certitudes absolue. Je ne sais pas si ça existe dans ce domaine-là. Mais on voit aussi qu'il y a de lourdes menaces sur la Chine qui peut l'amener à aller encore beaucoup plus loin quand elle crée cet incroyable programme d'investissement dit des routes de la soie. C'est au fond un programme de maîtrise des équipements d'infrastructures, les ports, les aéroports, les routes, et qu'elle propose des subventions ou des financements et qu'elle a des pays pour acheter des infrastructures ou aider au financement d'infrastructures. C'est évidemment très très dangereux. Il y a des pays européens qui l'acceptent. C'était le cas pour les Italiens il y a quelques temps.
Les Italiens, par
c'est
exemple,
extrêmement
là,
grave.
Ils ont mis l'unité européenne, enfin, ils ont joué finalement contre les intérêts de l'Europe en acceptant les Italiens.
Oui, je pense qu'il ne peut y avoir qu'une réponse collective. D'ailleurs, on sera respecté par les Chinois, mais c'est vrai aussi d'une certaine manière, évidemment des partenaires beaucoup plus fraternels que sont les États-Unis, enfin, qui ont aussi leurs propres intérêts. On le voit aujourd'hui
que défend fermement Donald Trump.
Et honnêtement, si on veut peser sur le plan économique, si on veut aussi impulser quelque chose sur le plan civilisationnel, c'est-à-dire qu'il y a quand même des valeurs qui, me semble-t-il, sont universelles et qui sont nées en Europe. Tout ça nécessite beaucoup de prudence. Et ça nécessite une cohérence européenne. Et je pense que la conférence qui a eu lieu aujourd'hui avec Madame Merkel ou Monsieur Juncker et puis le président de la République française est une bonne chose pour essayer de montrer qu'il y a une cohérence européenne. Cela dit, il n'y avait pas tous les pays d'Europe. Donc il y aura une conférence Chine-Europe dans quelques jours à Bruxelles. On doit réitérer ça, mais c'est très difficile parce que les Chinois offrent beaucoup d'argent. Oui. Ils offrent beaucoup d'argent. Et donc il y a des pays qui, à mon avis, hésitent beaucoup. Le cas des Italiens, c'est cela. C'est une vision à très très court terme. C'est du court-termisme. Donc il faut faire très attention. Ça ne peut être qu'un partenaire. Il faut évidemment dialoguer avec la Chine. C'est un pays extraordinaire. Enfin, l'Europe, c'est 500 millions d'habitants divisés. La Chine, c'est plus d'un milliard pas divisé. Avec un président élu à vie.
D'où l'intérêt de l'Europe d'être soudé.
D'où l'intérêt de l'Europe d'être soudée, d'où aussi l'intérêt de l'Europe de bien comprendre que la Chine a aussi ses propres faiblesses. Elle vieillit beaucoup, il y a un vieillissement tout à fait extraordinaire. Les Chinois épargnent, parce que comme ils n'ont pas de sécurité sociale, ils épargnent énormément de leurs revenus. Donc le marché intérieur ne suffit pas pour créer de la richesse et développer la consommation. Donc c'est beaucoup de sujets en réalité qui ne sont pas simples. Puis les entreprises chinoises sont extrêmement endettées, très endettées.
Et le problème pour les investisseurs, par exemple français, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est qu'il est extrêmement difficile de s'implanter et ensuite de se développer sur place. Est-ce qu'il faut être plus exigeant sur un minimum de réciprocité?
Alors, bien sûr. Et après, il y a le multilatéralisme, le bilatéralisme, enfin, les accords commerciaux. Nous, c'est notre pays, enfin, c'est avec le pays avec lequel on fait le plus de déficits commerciaux. Et c'est totalement déséquilibré comme rapport. Et il faut évidemment rééquilibrer ce rapport sur l'accès au marché public, sur la capacité à créer une entreprise, sur l'actionnariat, sur tous ces sujets. Il y a une multitude de sujets qui doivent être totalement rééquilibrés. Et le marché, il est totalement déséquilibré. Et s'il continue à être déséquilibré, il faut qu'on assume, nous, ce déséquilibre, et qu'on prenne des mesures. Avec le marché européen, avec 500 millions évidemment de consommateurs. On ne peut pas le faire uniquement au niveau français. Puis il y a quand même le jeu des États-Unis là-dedans. Hein. Le jeu des États-Unis qui n'est quand même pas extrêmement clair et dont on a parfois l'impression qu'en réalité, il se ferait peut-être sur le dos des Européens assez facilement si on pouvait
justement,
plus intéressant.
La Commission européenne refuse les pressions américaines pour exclure donc Huawei du marché de la 5G en Europe et laisse aux États membres, eh bien le soin de décider. Donc le souverainisme, c'est quand.
Enfin, il faut que ceux qui maîtrisent ces technologies au niveau européen donnent une opinion suivie par les autorités européennes là-dessus. Je crois que c'est des sujets trop dangereux pour ne pas faire preuve d'angélisme. Et les Américains sont tous sauf angéliques quand ils veulent protéger. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent protéger. On voit bien que le monde, il sera dominé par ceux qui domineront la technologie, les technologies. Et qui échappe d'une certaine manière aux uns et aux autres. On en est totalement après addict et dépendant.
Mais d'où le problème de la 5G d'ailleurs.
Donc c'est extrêmement important qu'il y ait une position commune, qu'il y ait des agences de technologie européennes et que les Américains ne dealent pas au fond au détriment des Européens.
Mais ce qui est intéressant en effet, Eric Woerth, c'est ce que évoquait à l'instant Roselyne Fèvre, c'est que la Commission dit les États-nations, enfin les nations décideront ce qu'elles veulent faire. Et c'est vrai que pour la Commission européenne, qui a tendance à considérer le souverainisme comme un péché mortel, c'est un peu étonnant comme position, non, de dire, voyez chez vous, chacun, ce que vous ferez.
Oui, parce que c'est pas une compétence partagée. Les grands réseaux c'est pas une compétence en fait européenne.
Oui, mais il pourrait malgré tout y avoir une recommandation.
Je pense qu'il y a des élections et je pense que c'est bien d'essayer de le proposer. C'est-à-dire que des couvertures aussi importantes que ces couvertures numériques doivent au moins faire l'objet d'un certain nombre de débats européens. Mmh. Et puis après, les États font ce qu'ils veulent. Mais nous aussi, on a nos propres opérateurs qu'il faut pas totalement oublier. Ouais. Et puis on a aussi nos propres faiblesses. C'est-à-dire que pourquoi on est divisé? Parce que par exemple nos amis allemands ont une industrie qui fonctionne autour de l'industrie automobile largement et qu'aujourd'hui les exportations d'automobiles tant aux États-Unis qu'en Chine ça fait fonctionner une bonne partie de l'Allemagne dans une voiture d'ailleurs, mais nous aussi d'ailleurs, dans une voiture allemande il y a au moins 10% de valeur ajoutée française ou 10% de valeur ajoutée italienne, donc on en a besoin, mais il ne faut pas tout céder pour ça, parce qu'un jour on passera à une autre voiture et on aura des batteries chinoises et on démonnera plus grand chose. Quand une voiture ce seront des batteries plus des données, plus de l'immatériel, et que le reste, c'est pas grand-chose, on sous-traitera ça en Europe, et puis ce sera terminé de notre capacité à jouer un rôle sur ce monde extraordinaire de la mobilité.
Alors on va parler des européennes, bien évidemment. Donc on a su aujourd'hui qu'il y avait un numéro 2 sur la liste, les Républicains, même d'autres noms d'ailleurs, de personnalités d'ailleurs qui venaient des Républicains.
Vous parlez de la République en marche.
Oui, la République en marche.
Sur le numéro 2, les Républicains sont clairs et nets depuis maintenant.
Non, mais je voulais avoir votre avis sur le tandem Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, donc ancien d'Europe Écologie Les Verts, président de WWF. C'est une bonne stratégie de prendre un verre ?
C'est un duo qui chante faux quand même.
Pourquoi ?
Parce que ça ne marche pas ensemble. C'est des positions contraires sur l'Europe, si j'ai bien compris. À vouloir trop embrasser, on ne comprend plus rien. Et je pense que d'ailleurs, Mme Loiseau, elle n'est pas en cause, je ne veux absolument pas juger des personnes, mais enfin, ce qu'elle représente politiquement est quand même assez étonnant. C'est une drôle de réponse à la crise sociale que nous vivons, de nommer en tête de liste de la première élection nationale pendant cette crise sociale, de nommer comme tête de liste quelqu'un qui représente la haute fonction publique, enfin la technocratie dans tout ce qu'elle a
vaut
de
mieux un
meilleur
philosophe.
Probablement, mais aussi de tout ce qu'elle a de
vaut mieux
de
un philosophe comme chez les Républicains.
Je pense que il y a même des philosophes qui sont présidents de la République, donc mais il vaut mieux un philosophe parce que d'abord c'est un professeur,
un assistant,
c'est un professeur,
d'un philosophe.
C'est un prof, donc il va au contact des gens, des élèves. grève, etc. C'est pas du tout la haute fonction publique. Et donc de donner comme tête de liste l'image d'une haute fonction publique qui par ailleurs était directrice de l'ENA, donc on est dans les élites absolues, c'est assez curieux comme réponse en réalité politique, parce que tout est symbole, comme réponse politique aujourd'hui à...
Il aurait fallu mettre qui...
à la crise dite des gilets jaunes. Oh, j'en sais rien, je forme pas la liste de La République En Marche. Déjà, je forme pas celle des Républicains, donc je vais pas former celle de La République En Marche. Mais je vois bien que c'est en décalage. C'est un décalage, à mon avis, complet. Et de dire, elle connaît bien l'Europe, heureusement quand même, elle est ministre des Affaires européennes, et puis il y a plein de gens qui connaissent bien l'Europe. Je dis, heureusement, c'est un minimum, quoi. Ouais. Mais c'est pas un débat d'expertise, c'est d'abord un débat politique. Et si on veut faire évoluer l'Europe, c'est pas des hauts fonctionnaires qui vont faire évoluer l'Europe.
C'est un débat sur...
D'ailleurs, l'Europe, elle a été pas créée par des hauts fonctionnaires, elle a été créée par des politiques qui ont saisi
sur un projet, sur une vision du monde, enfin, sur une vision de l'Europe. Est-ce que vous partagez totalement la vision de Laurent Wauquiez, qui n'hésite pas, lui, à parler d'une bataille de civilisation pour défendre nos valeurs, et notamment nos valeurs judéo-chrétiennes. Est-ce que vous êtes raccord avec ça?
Oui, moi, je suis raccord avec ça, parce que je pense que l'Europe, c'est une civilisation. D'abord, c'est un berceau.
Et qui est menacé en tant que tel aujourd'hui?
Oui, parce que tous les rapports de force, on voit bien que les empires se reconstituent, si jamais ils ont disparu, que tout ça vit et meurt. Mais quand on voit les Chinois, on en parlait, mais quand on voit aussi les Américains qui commencent de plus en plus à jouer un peu solo sur plein de sujets, on voit bien que l'Europe, elle doit évidemment protéger ce qu'elle est, quelle que soit la nature des gouvernements qui la composent, parce que il y a des démocraties, donc de temps en temps, évidemment, c'est pas tellement raccord en termes de gouvernement, mais enfin, on a des valeurs communes, on a d'ailleurs été des pays aussi d'émigration, donc on a beaucoup peuplé, pas la Chine, mais enfin les États-Unis ou d'autres pays. En tout cas, on a des valeurs communes. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle était en France, on est le berceau de démocratie ancienne, donc toutes ces valeurs, les valeurs de respect, les valeurs d'humanisme sont nées avec, évidemment, la civilisation judéo, gréco, chrétienne, etc. Donc tout ça, on doit le porter haut et on ne doit pas hésiter. Quand les Chinois jouent leur rôle, ils portent aussi des valeurs civilisationnelles, d'une merveilleuse civilisation, bien sûr. La question n'est pas de juger la qualité des civilisations, mais c'est juste de dire, nous, on a un modèle de vie. Parce que derrière une civilisation, c'est des modèles de vie. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'envisager les rapports entre l'homme et la femme, d'envisager les rapports entre l'État et l'individu, entre la liberté et l'autorité. Bon, tout ça, c'est extrêmement important. On n'aurait pas de président à vie en France.
Est-ce que, pour vous, Laurent Wauquiez, il suffit pro-européen. On avait eu des doutes il y a quelques mois.
Le projet est un projet qui est assez, je pense qu'il est allé assez au fond. Hein. Il y a beaucoup de propositions et de natures différentes, mais au fur et à mesure de la campagne, certaines propositions vont émerger. Je crois qu'il faut une Europe dite de projet, c'est-à-dire qu'il faut intéresser les gens sur des projets, pas sur de l'organisation pure et dure.
Mais vous doutiez il y a quelques mois. Vous avez dit attention à ce que les Républicains de ne pas les transformer en un petit parti conservateur. Un, est-ce que vous le pensez toujours? C'était ça. Vous disiez ça au mois de janvier. Et deux, pourquoi petit parti conservateur?
Je pense toujours ça, parce que je citais un risque. Donc je dis, attention, ce risque, moi je ne veux pas, je ne dis pas qu'on y est tombé, mais je dis, attention, il y a aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas, c'est ce que j'ai dit, et je ne retire pas ce que j'ai dit, évidemment, en janvier, il y a ce risque, et c'est pas un risque qui... Enfin, moi, c'est pas ma...
Mais ce risque, il vient de Laurent Wauquiez en particulier?
Non, mais je vais pas faire du Wauquiez bashing, ça n'a aucun sens. C'est le président de mon famille politique. Aujourd'hui, on est dans une campagne électorale. Et quand on est dans une famille, quand il y a un objectif, on essaie de l'atteindre collectivement. Donc on doit soutenir cette liste, elle a été équilibré et correctement, je crois, équilibré. Et sur le fond, il y a pas mal de choses dans le projet des Républicains. Il y a à la fois l'idée d'une protection, idée assez banale, hein, mais on la retrouve un peu partout, et on en retrouve beaucoup dans ce que nous avons dit ces dernières années, mais il faut une protection physique, par des frontières, il faut une protection intellectuelle, c'est le problème de la civilisation, protection économique, une protection ou des barrières écologiques, quelle drôle d'idée d'importer des produits qui contiennent des normes sociales ou environnementales qu'on ne partage pas, mais il faut, au-delà de cela, un projet qui protège, c'est pas un projet Ouais, toutes les citadelles sont faites pour être prises à un moment donné, ou tous les murs sont faits pour être contournés. Non, il faut un projet conquérant. L'Europe, elle doit avoir pour vision, dans un monde qui est le nôtre, d'imposer un certain nombre de choses, de vendre plus que les autres, d'essayer de recapter les technologies, de faire en sorte que la recherche à tout niveau se passe sur son sol. Bon, un projet mondial. L'Europe, ça doit être un projet mondial. Et la seule façon de protéger ce que nous sommes, nos modes de vie, nos civilisations, c'est in fine quand même d'être conquérant, d'être ne pas en défense, mais d'être évidemment en attaque. Et c'est, je pense, là-dessus qu'on pourra juger du résultat de notre lit. Je suis persuadé
que
ce sera...
Alors, le résultat, vous êtes crédité de 15% dans les intentions de vote, derrière le Rassemblement National et derrière, bien sûr, la République En Marche qui est en tête. Est-ce que vous pensez pouvoir remonter la pente? On a le sentiment qu'il y avait la politique française a toujours fonctionné sur une bipolarité, la gauche, la droite. Aujourd'hui, est-ce que ça, c'est fini? Et est-ce que ce que Macron a appelé les nationalistes et les progressistes, c'est dans le fond les deux blocs qui persistent et qui vont durer?
Moi, je crois pas que la grille de lecture gauche-droite, vous pouvez l'appeler autrement, conservateurs, libéraux, enfin, ça, dans plein de pays, mais une démocratie, ça fonctionne quand même avec des idées différentes. Et pas uniquement une sorte de centre comme ça. Le en même temps, ça marche pas longtemps, ou ça ne marche qu'au profit d'un certain nombre d'individus à un moment donné qui captent l'intérêt des électeurs mais qui déçoivent après. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a des grilles de lecture, grosso modo de droite ou de gauche, quels que soient les partis qui les portent. Et ces grilles de lecture, elles font passer les notions de solidarité, de responsabilité individuelle ou collective, de pas tout à fait au même endroit, de poids de l'État, de poids de la décentralisation. Enfin, tous ces sujets qui organise en réalité la vie de tous les jours. Et je crois que c'est des vraies grilles de lecture. Alors je disais, quand on était à 8% ou 9% ou 10% dans les sondages, je ne sais plus, je disais que nous avions une grande marge de progrès. Oui. Nous avions un bon potentiel de progrès. Bon, je vois qu'on est en train de grappiller
ouais,
des points au fur et à mesure du temps. Tant mieux que Debout la France fasse moins de voix. Oui. Je pense que c'est naturel, parce que c'est juste souvent assez pathétique comme type de réponse européenne. Bon, donc on voit bien que peut-être un certain nombre de vérités commencent à se forger, que les gens sérieux et solides, aujourd'hui, c'est quand même la liste des Républicains, et que c'est une alternative assez fondamentale.
Pourquoi sérieux et solide?
Ben parce que d'abord on est solide, on a plein de candidats qui ont été députés européens, ont exercé de grandes responsabilités, qui en même temps on a d'autres candidats qui sont totalement nouveaux. Enfin, je pense qu'il y a une bonne
qualité. Donc en même temps, vous
aussi. Bonne qualité de.
En même temps.
Ah ben pour les hommes, ça peut se faire l'équilibre humain, mais pas l'équilibre idéologique. L'équilibre idéologique, c'est l'immobilisme à un moment donné. Et donc je pense qu'on a toujours un potentiel de progrès, parce que les Républicains, ça pèse quand même plus que 13 ou 14 ou que 15%. Donc on doit, je pense, à un moment donné, rejoindre ces deux listes qui, dans les sondages, sont en position, en pole position. Donc il n'y a pas de raison.
C'était beaucoup plus.
Il n'y a pas de raison d'être derrière la liste de Madame Loiseau ou d'être derrière la liste du candidat du Rassemblement National. Il n'y a aucune raison objective. La France est dans un mauvais état, et dans un état social tout à fait désastreux aujourd'hui.
Il n'y a pas de projet. Vous entendrez.
Il y aura une.
Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de cap. Bon, à nous de montrer qu'on est suffisamment rassurant.
Il y a plus de temps, parce qu'on a fini cette émission.
S'il y a plus de temps, écoutez, j'aurais dit l'essentiel.
Merci, merci. Bonne journée.
Merci beaucoup, et merci à Camille Néran et à Charlotte Urien-Tomaca et à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission. Très vite, merci.